On est quel jour aujourd'hui?
Bah pourquoi?
Quand ça?
Mais pourquoi?
Où? Quoi ça?
Ah pourquoi?
Pour les promesses de l'aube.
Quand ça?
Radio Panique, 105.4 FM.
Ça?
7h-9h?
Eh, le vendredi aussi.
Des promesses, toujours des promesses.
D'accord.
Nous y voilà.
Faire genre.
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 Bien bonjour et bienvenue dans Faire genre 2.0 ou 3.0 à ce point-ci. Le faire genre confiné en cours de déconfinement, bien que ce ne soit pas très clair. Aujourd'hui, autour de notre table virtuelle, parce qu'on a un peu changé les choses, nous ne sommes pas à Radio Panique, nous sommes chacune dans nos nids respectifs ou presque. Et autour de la table virtuelle, on a Lisa, Louise, Sophie et Charlotte et Clément qui est muté et caché quelque part. Et donc on a décidé de tester un peu un nouveau format, d'essayer quelque chose de différent, quelque chose de plus spontané, aussi qui colle un peu plus à nos vécus et à nos réalités post-crise, ou pendant la crise, ça dépend où on se situe. Et donc, bonjour les filles.
Salut Aïda.
Bonjour.
Et je ne sais pas très bien par où est-ce qu'on commencerait. On parlait de confinement, peut-être que j'enchaîne comme ça... On verra bien où on va après, ouais. Mais moi en fait, je veux pas déconfiner. Voilà, c'est mon secret honteux du moment. Moi, Aïda, je ne veux pas déconfiner. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas prête. Et de toute évidence, personne n'est prêt. Quand je regarde dehors, les gens ils sont pas prêts. Le gouvernement il sait pas ce qu'il fait, il est pas prêt. Personne n'est prêt et pour moi, en fait, je trouve ça hyper anxiogène. Je trouve ça hyper angoissant de passer d'une période où on prend note d'un réel problème, on fait quelque chose, tout le monde est confiné, où moi, je commençais seulement à attraper un rythme. C'est pas toujours évident parce qu'en plus, j'ai des enfants. Donc, une semaine sur deux, j'ai des enfants. Je suis partie des gens très, très privilégiés qui n'ont des enfants qu'une semaine sur deux. Et en fait, avec le déconfinement vient la réalité que moi, en fait, je suis toujours confinée, je travaille toujours de chez moi. Mes enfants ne vont pas à l'école, donc ils sont toujours confinés. Sauf que maintenant, il y a une sorte d'attente générale sur nous, les petits humains qui sommes en déconfinement, en processus de déconfinement, d'être efficaces. Il y a une injonction à la productivité qui revient, une sorte d'oubli collectif de ce qui vient de se passer, qui, moi, me terrorise, et une sorte de... Oui, vraiment, une injonction à suivre les choses, à revenir à la normale. Et donc, par exemple, moi, je le vois au niveau des enfants. Moi, mon fils, maintenant, il a un agenda en ligne, avec des deadlines. Genre, il a des devoirs, il a des rédactions à écrire, il est en troisième primaire, qui viennent de surgir. Maintenant, il y a des deadlines. Et en fait, le stress de la deadline, il va pas sur mon fils, il va sur moi qui dois en fait penser à, en plus de checker mes mails de boulot et ma vie et mes autres obligations, de devoir aller vérifier son agenda à lui, s'assurer qu'il a tout fait. L'autre jour, il était chez moi, il devait faire son arbre généalogique pour la semaine suivante alors qu'il était chez son autre parent. Eh ben, j'ai fait ma partie de son devoir à l'avance. Genre, je prépare son boulot comme le mien, quoi. Et en plus de ça, maintenant, il a des réunions Zoom. Et ces réunions Zoom, alors je sais pas pour vous, mais moi je suis complètement zoomed out. Je n'en peux plus d'être en vidéo toute la journée. Hier, avant-hier, j'en avais 5. 5 vidéos sur la journée. C'est juste plus possible. Et ces réunions Zoom par l'école, mais ouais. Et ces réunions Zoom par l'école, elles sont imposées. Donc elles sortent de nulle part. Tout d'un coup, on te dit, ok, vous devez être libre à 16h. Et t'es là genre, j'ai une vie. Et potentiellement, moi j'ai besoin de mon ordinateur. Et toutes les familles n'ont pas de multiples écrans pour que leurs rejetons puissent aller faire des réunions Zoom avec leurs profs pour faire un poème sur le printemps, par exemple. Donc voilà. ça c'est ma position du moment. Ma position du moment, c'est j'en ai marre du déconfinement.
C'est vrai que c'est l'enfer, hein, toutes ces réunions Zoom. Moi, j'essaye de limiter, enfin, que ce soit Zoom ou autre chose, mais j'essaye de limiter à une visioconférence par jour.
Bah, c'est quand même déjà bien.
Non, mais alors, j'en fais pas tous les jours, mais c'est-à-dire que si on m'en propose, je fais en sorte qu'il n'y en ait pas deux dans la même journée, quoi. Sinon, c'est pas possible. En fait, on se retrouve à parler avec plus de gens que quand on n'était pas confiné. Enfin, genre, non, c'est trop chelou, quoi.
Oui, et puis surtout dans des conditions qui sont, je trouve, super difficiles. Moi, perso, après 2 heures de Zoom, bah, j'ai mal à la tête parce que juste techniquement, ça fait du bruit. Puis c'est déjà parfois dans la vie, je trouve, quand tu as 5 personnes autour d'une table, tu as envie de parler, tu sais pas toujours à quel moment, comment rebondir. Enfin, c'est pas toujours en fait évident, les conversations entre êtres humains. Mais alors, par ordi, c'est genre, est-ce que je dois prendre la parole? Est-ce que je dois pas prendre la parole? Est-ce que ces gens, en fait, ils ont les yeux dans le vague parce qu'ils sont en train de checker leur Facebook en même temps? Ou c'est parce qu'en fait, ce que je dis est pas du tout intéressant? C'est vraiment, ouais,
c'est clair. C'est pas évident. Et puis, tu peux pas, si jamais il y a quelqu'un qui t'ennuie dans la visio, tu peux pas parler à ton voisin et esquiver.
C'est vrai, ça.
Ça, je trouve que c'est pas facile.
Tu peux chatter, mais t'as l'angoisse d'envoyer à tout le monde le message que tu vas envoyer juste à ta collègue. Et où tu te dis, bon, voilà maintenant un incident diplomatique, le retour au bureau va être tendu. Ouais. Voilà. Moi, ma dernière réunion d'équipe, elle m'a poussée un peu à bout. On parlait justement de déconfinement. J'ai des collègues qui sont plus extravertis que moi, oui, et qui ont besoin de rentrer, voilà, moi je suis une fausse extravertie. Les gens pensent que je suis très extravertie. En vrai, moi je me sens jamais aussi bien que comme un chat toute seule, tranquille dans mon fauteuil. Sur un rayon de soleil, c'est encore mieux. Et du coup, ouais, on était en train de parler du fait de retourner au boulot. Et ma chef a dit, bon, de toute façon, ici, on peut revenir au boulot quand vous voulez, si jamais vous avez besoin. On peut juste pas être plus de 3 dans la maison en même temps. Donc, on va faire une sorte d'horaire, une sorte d'équipe, une sorte de roulement. Mais si jamais vous ne voulez pas retourner au bureau ou que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas obligé. Surtout pour ceux d'entre vous, c'est-à-dire moi, hein, il n'y a que moi, qui avaient déjà des enfants. Et j'ai une collègue qui a fait une petite blague en disant « Si à mon avis, une plante verte, ça compte ?» On l'avait jamais entendue, celle-là. Voilà, donc les gens qui sont pas parents, moi, je vous aime super fort. En vrai, j'avoue que c'est super cool parfois de pas être parent. Une semaine sur deux, moi, j'ai la grande chance de pas être parent. C'est trop bien. Mais en fait... vos commentaires sur les plantes, vous les gardez. Ok ? Merci. Voilà, c'est un message d'utilité publique.
Bah, c'était pas à nous que ça s'adresse, hein, j'imagine.
Que c'était. Je sais pas, je vous ai jamais entendu parler de plantes vertes.
Voilà, mais il faut préciser. On est sur Jitsi, on n'est pas sur Zoom.
C'est vrai.
Ah, c'est vrai.
Oui, non, mais bien sûr, quand on parle du boulot, on est bien d'accord que faire genre, c'est pas mon emploi à temps plein.
Ah bon?
C'est même pas mon emploi.
Oui, vas-y Lisa, tu voulais dire un truc?
Moi? Ouais. Non.
On s'y retrouve.
Voilà, ça c'est une illustration du moment improbable dans une conversation où les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent parler.
Oui. Bon. Ce à quoi ça m'a fait penser, ce que vous disiez, c'est j'ai l'impression que les vidéoconférences, ça exacerbe ce truc qui, à mon avis, est une des causes qui nous épuise beaucoup. C'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et quand on est dans une même pièce avec des gens, en fait, on peut moins faire ça. On est plus concentré. Alors que devant un Zoom, on est tenté, du coup, je pense, de regarder ses mails, de regarder son agenda. Enfin, vous voyez, on peut plus faire ça. Et je pense que c'est ça aussi qui nous épuise pas mal, de chatter. Moi, je vois des réunions où, du coup, il se passe plein de trucs dans le chat, mais du coup, on est hyper sollicité. Et on est moins présent à ce qu'on fait, en fait, derrière un écran, parce qu'on peut faire plus de trucs. Comme on disait tout à l'heure, on peut aussi se déplacer dans l'espace, on peut... Voilà. Et du coup, je pense que ça participe de cet épuisement des écrans.
Et le fait de se voir en vidéo aussi. Hein.
Ouais, et le fait de se voir, de se juger. On voit qu'on est en train de s'ajuster en permanence parce qu'on se voit. Du coup, c'est plein d'informations aussi qui viennent faire filtre avec les autres, en fait.
Ouais. Puis il y a une question de dissociation aussi, je pense. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, tu n'es jamais réellement tous seul. Mais en même temps, t'es quand même tout seul.
Ouais, c'est ça.
Et donc, du coup, ton esprit est constamment sollicité.
Ouais.
Et en même temps, en fait, t'as pas le contact des autres. Il n'y a pas ton corps qui est sollicité en même temps. Et en même temps, il est quand même sollicité parce qu'il est surveillé. Et j'avoue qu'en fait, en tant que personne racisée, pour moi, c'est assez compliqué parce que, de manière générale, je suis toujours surveillée. Mmh. Au point où je fais partie des nombreuses personnes traumatisées qui s'auto-surveillent constamment. Mmh. Parce que justement, il y a constamment ce regard jugeant sur notamment la productivité. Et la question de la productivité pour les personnes racisées, c'est hyper compliqué. Enfin, moi, je descends directement d'esclaves. On est très nombreux à venir de populations colonisées, etc., dont la seule et unique valeur a été posée sur le fait qu'on soit productif, productive. Et donc, du coup, à partir du moment où tu dis « Ok, là, maintenant, tout de suite, c'est mon heure de sieste », ben, t'as tendance à te dire, ok, ben non, moi typiquement, enfin, je suis sortie de chez ma psy il y a 2 semaines, je me suis dit, ok, maintenant je vibre, j'ai besoin d'aller me poser, je vais aller prendre un bain. Et ben, j'ai fait ce truc que beaucoup de gens comme moi font, hein. J'ai nettoyé la salle de bain. Ben, j'ai pas eu le temps de prendre un bain, donc j'ai toujours pas pris mon bain là. J'ai toujours pas pu me poser dans cette baignoire que j'ai nettoyée parce que ben, là, il était plus l'heure, quoi.
Ah zut.
Voilà. L'injonction à la... et en fait, le fait d'être surveillée tout le temps, ben ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, j'ai un autocollant sur mon... J'avais déjà un autocollant sur ma caméra avant le confinement. J'ai enlevé l'autocollant de ma caméra pendant le confinement parce qu'en fait, j'étais sur Zoom tout le temps. Et maintenant, j'ai remis l'autocollant juste pour pouvoir vraiment me dire, tiens, est-ce que je veux vraiment décoller cet autocollant ou pas ? Et me donner le choix de ne pas mettre ma vidéo, quoi.
Lisa, tu voulais dire quoi ?
Non, moi, je disais que contrairement à toi, Aïda, je suis justement très contente que le confinement arrive, même si je comprends que... Enfin, je vois bien que c'est le bordel et genre... Par exemple, le 11 mai, quand il y avait une semi-grève des transports, et que j'étais dans le 92 pour aller au boulot et qu'en fait, tout le monde se touchait parce qu'il n'y avait pas d'espace pour que tout le monde ne se touche pas parce qu'il y avait un tram toutes les 35 minutes et tout le monde qui retournait au boulot. C'est vrai qu'il y a un truc d'angoisse de dire « Mais en fait, on va être confiné dans 2 semaines, c'est pas possible. Enfin, ça n'a pas de sens. Quand tu vois les mesures qui sont prises dans les écoles, dans certaines entreprises, c'est pas cohérent. Ça, je suis tout à fait d'accord. » Mais par contre, moi, c'est vrai que j'angoissais beaucoup quand j'étais uniquement plus souvent chez moi, avec pas la possibilité de sortir. Enfin, j'ai continué à bosser parce que je bosse à l'accueil d'un hôpital psychiatrique, donc je devais continuer à travailler. Mais c'était tout, quoi. C'était soit travail, soit à la maison. Et là, le fait de pouvoir ressortir, aller voir mes parents, aller me promener avec des gens, etc., et que ce soit un peu plus zen, bah, du coup, je me sens moins obligée à être productive parce que quand j'étais enfermée chez moi, je me disais, waouh, j'ai tout ce temps. En fait, je suis vraiment obligée d'écrire un roman ou de faire un truc de malade ou de prendre de l'avance dans mon boulot parce qu'après, quand ça va reprendre, ça va être tout en même temps et ça va être super compliqué. Et j'ai vu plein de gens autour de moi qui ressentaient ça, ce truc de... tout d'un coup, c'est comme si on avait trop de temps... Et on ne sait pas comment l'utiliser parce qu'en même temps, on est anxieux. Et en même temps, du coup, si on ne l'utilise pas, on se dit qu'on est vraiment la pire personne. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vraiment le sentiment de me dire, mais en fait, je suis vraiment une personne incapable parce que là, j'ai toute une journée pour moi. Et en fait, j'ai travaillé que 4 heures sur la journée. C'est vraiment horrible.
Il y a une pression à la productivité.
Ouais. Mais du coup, sortir, ça me... Parfois, genre, je vais voir quelqu'un et du coup, je me dis, OK, là, je ne dois pas travailler parce qu'en fait, je vais voir quelqu'un et c'est tout. Et je ne peux pas tout faire.
Ouais. Et c'est bon. Une activité aussi, en soi.
Ouais. La complexité du truc, c'est qu'en fait, j'avais ça aussi. C'est-à-dire que c'était hyper anxiogène d'être confinée, mais le déconfinement à moitié déconfiné me stresse aussi. Et donc, en fait, du coup, moi, ça m'a absolument pas apporté ce soulagement que certaines personnes ressentent de pouvoir recommencer à sortir. Moi, je vois juste la stupidité du truc, en fait, l'incohérence. Je vois aussi le fait qu'on a un gouvernement qui est MR et qui n'a pas été élu d'ailleurs, hein. Mais bon, bref, on a un gouvernement MR et qui a pris des décisions basées sur son électorat et sur le fait qu'ils n'ont pas envie de payer les chômages techniques des gens pendant plus longtemps, quoi. Clairement, enfin, le choix de rouvrir les magasins en premier... C'est pas pour parce que vraiment tout le monde avait besoin d'avoir un nouveau t-shirt en soi. La raison pour laquelle on a rouvert les magasins, c'est la question de sécurité sociale et de payer les chômages techniques des gens qui en fait n'ont pas le choix, peuvent pas aller bosser, et en même temps soutenir l'électorat qui veut recommencer à faire du chiffre. Et donc du coup, je suis en fait OK, super, mais c'est pas parce que tout d'un coup vous ne pouvez plus payer les chômages techniques que par magie ce virus il a disparu. Enfin bon, bref. Mais je sais bien que par rapport au déconfinement, toi tu voulais parler de vélo, Lisa. Eh, hey, sans transition.
Parce que je trouve qu'on est vraiment assaillis d'infos très anxiogènes et que c'est vrai que le confinement a été vraiment dévastateur et il est encore pour plein de gens. Et voilà, on le sait, on le lit, on le vit. Mais il y a quand même moi un truc qui dans ma vie perso a été dingue pendant ce confinement. Et c'est que le fait déjà qu'il y avait beaucoup moins de voitures, ça je pense que tout le monde l'a constaté. Donc là, quand j'allais au boulot et tout en tram, mon trajet faisait 45 minutes, alors qu'en fait, quand il y a des voitures, il fait 1h15. Donc il y a quand même une demi-heure de différence. Mmh. Et puis du coup, je me suis mise au vélo aussi. Parce qu'il y avait moins de voitures, donc j'avais pas peur. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça toute ma vie? C'est vraiment incroyable de faire du vélo, c'est une telle liberté. Et puis en tant que femme, vraiment, je suis maître de mon propre destin, je peux aller où je veux toute seule, je suis très rapide, c'est du sport, enfin c'était formidable. Et puis une semaine après que je me mette au vélo, il y a eu le déconfinement. Donc toutes les voitures sont revenues en masse. Et là, je me suis rappelé pourquoi je faisais pas du vélo. C'est parce qu'en fait, tu risques de mourir environ toutes les 10 minutes. Surtout que là que j'habite à Scarbec, près de la gare de Scarbec, et en fait cette commune ne veut pas de cyclistes. Voilà, ils ont vraiment, c'est une décision urbanistique, je pense qu'ils ont prise, ou je sais pas comment ça se passe. Mais en gros déjà la gare, par exemple pour aller au boulot, j'essaie de combiner train et vélo parce que c'est le plus rapide. La gare, il y a même pas de petite rampe, vous savez, pour monter le vélo le long des marches pour pas devoir le porter à la main dans les marches. Donc voilà, du coup je porte mon vélo dans les marches. Je n'ose même pas penser aux personnes à mobilité réduite qui en fait juste ne peuvent pas utiliser cette gare, elle leur est interdite, c'est formidable. Et puis oui, l'ensemble de Scarbec est super mal foutu par rapport au vélo. Et surtout, j'ai constaté, on me l'avait dit, hein, beaucoup de cyclistes le savent, donc je vais redire ce qu'ils savent déjà, mais je ne m'étais pas rendu compte de à quel point les voitures sont, j'ai envie de dire méchantes, mais sans doute qu'elles ne sont pas méchantes, mais très agressives, à klaxonner, etc. Et puis moi aussi, ce que j'ai eu le grand plaisir de découvrir aussi, c'est que certains piétons de sexe masculin, hein, pour la grande majorité, trouvent ça très chouette de te faire des conseils ou des insultes sur comment tu dois utiliser ton vélo et qu'est-ce que tu peux faire ou pas faire en vélo. Et donc, j'ai eu deux fois quelqu'un qui m'a interrompu pour me dire « Vous n'êtes pas sur une piste cyclable, vous n'avez pas le droit de rouler là. » Et donc, quand même, j'avais envie de leur dire « Écoutez, il n'y a pas de piste cyclable partout dans Bruxelles. Deal with it, c'est pas ma faute. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de rouler. » Une voiture aussi où j'arrivais en contresens d'elle dans un sens unique, parce que c'est un sens unique excepté vélo. Donc, il y a un petit panneau devant et tout ça. Hein. Et donc, une voiture qui s'arrête, qui baisse sa vitre, un homme de nouveau, pour me dire « Mademoiselle, c'est très dangereux, vous n'avez pas du tout le droit de prendre ces trucs qui est en sens unique. » Donc, t'as quand même envie de dire...
Et donc là, t'as envie de lui mettre la tête sur le marquage au sol qui indique un petit vélo et qui dit « J'ai le droit d'être là, bordel !»
Tout à fait. Sauf qu'en général, il redémarre très vite et donc tu n'as pas le temps de lui dire quoi que ce soit. Il est déjà parti avec sa grosse voiture et tu es juste sur ton vélo en train de dire « Ah !» Voilà, c'est une réalité nouvelle pour moi, mais donc c'est très positif.
On manque toujours de répartie sur le moment.
Mais ça, c'est un des désavantages du déconfinement, c'est que il y a la police, des polices, donc donc il y a de la police déjà partout, qui a des drones, des promènes couillons, ils ont aussi des trottinettes, ils ont des chevaux, ils ont des vélos, tous les moyens de transport, je pense.
Attends, pardon, t'as dit des promènes couillons?
Les trucs, tu vois, c'est les trucs sur deux roues qui se tiennent droit comme ça.
Les segways.
C'est ça. Voilà.
Ah, ok, d'accord.
Ils font le tour des étangs d'Ixelles comme ça, et enfin, ils ont l'air vraiment ridicules, mais ils testent. Je pense que vraiment, ils savent pas comment gérer leurs moyens de transport. Et en plus de ça, moi, ce qui m'oppresse hyper fort dans ce déconfinement, c'est la surveillance et le contrôle permanent, mais pas uniquement des policiers, mais du coup, de tout le monde. Du coup, c'est-à-dire que dans certaines rues à Woluwe Saint-Lambert, par exemple, le masque est obligatoire parce que c'est c'est une réglementation communale apparemment, et donc dans les rues bourgeoises où il y a des chocolateries comme Marcolini, et ben du coup les masques sont obligatoires pour protéger la clientèle qui est très chère et très riche et très blanche
et très vieux.
Il y a beaucoup de valeur.
J'oublie tout le temps ça, mais oui. Et donc dans ces rues le masque est obligatoire, et il y a des flics parfois, mais pas toujours. Mais par contre, il y a toujours des gens qui sont là pour te rappeler que le masque est obligatoire et que tu dois rester à 1,50 m de distance, etc. Du coup, on peut compter sur la surveillance globale citoyenne et collective qui me met hyper mal à l'aise. Mmh. Et ce matin, j'ai vu un tag très chouette qui était le symptôme du coronavirus, point d'interrogation, keuf, keuf, keuf.
Ah, j'aime bien.
Et d'ailleurs, hier j'ai posté un truc d'un site qui s'appelle Reporter, je ne sais pas si vous connaissez, et qui reprenait les mesures qui ont été faites en France par rapport à la surveillance des gens dans les endroits naturels. Et c'est complètement délirant, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis en place des dispositifs de surveillance par drone, ils ont mis toute la gendarmerie en service pour ça. pour aller se mettre dans des endroits, des chemins de randonnée et dire aux gens non, non, vous ne pouvez pas venir là, comme si c'était un lieu de contamination. Enfin, c'est complètement ridicule. Et ils ont déployé vraiment des budgets et une énergie. Ils ont même voulu, à un moment, mettre des chasseurs, ce que tu disais, Sophie, vraiment la surveillance généralisée avec toutes les milices possibles. Donc, ils ont même voulu engager les chasseurs pour dire aux gens dans les forêts de ne pas aller se balader. Ils ont utilisé des hélicoptères.
Pas aller se balader.
Parfois, ils utilisaient des hélicoptères pour chasser un pauvre gars sur une plage, tu vois, non mais tu vois, ou des drones dans la forêt. J'ai entendu des récits comme ça de gens qui sont dans la forêt, puis tout d'un coup, t'as un drone qui vient les choper et leur foutre une amende chez eux. Mais c'est du.
Et pendant ce temps-là, on manque d'argent pour l'hôpital public.
C'est ça.
Hallucinant.
C'est un choix en fait, et c'est quand même hyper flippant parce que quand on parle de la surveillance comme ça, et même ne fût-ce que des règlements locaux, par exemple, l'ascenseur, ma copine me disait, elle rentre en vélo du centre, elle prend l'ascenseur Place Poulart.
Ouais.
Bon, l'ascenseur, à la base, c'était une personne par ascenseur. Maintenant, c'est deux personnes par ascenseur. Maintenant, cet ascenseur, on peut encore l'emprunter. Ici, moi, j'ai un petit chemin à côté de chez moi, à Uccle, qui passe au milieu. Je l'ai découvert en passant à côté. Genre, j'habite ici depuis un an, c'est la première fois que je le voyais. Et il y a une barrière devant avec marqué « En raison du coronavirus et pour éviter la proximité des gens, ce chemin est interdit. » Donc, c'est là, attends. Donc, en fait, un chemin qui monte dans la forêt est interdit, mais l'ascenseur, qui est l'endroit le moins ventilé du monde, fine. Et en fait, moi, je dois dire, la question de la surveillance, elle est hyper importante, et elle est hyper importante aussi pour les personnes qui, comme moi, sont racisées, les personnes dans les quartiers. Je veux dire, même mon fils de 7 ans a réalisé que c'était complètement improbable qu'à Uccle, alors qu'on était à côté d'un commissariat, il n'y ait pas un seul policier, mais que quand tu vas à Cage aux Ours à Scarbeck, il y en a partout. Et quand je lui ai demandé, bah tiens, à ton avis, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a plus de Noirs ? Je fais, oui, il y a des Arabes, des gens perçus comme étant Arabes. Ah oui, et je fais, à ton avis, pourquoi ? Il fait, le racisme. 7 ans. Voilà. Et puis ensuite, il nous dit, bah donc du coup, qui nous protège de la police ? Puis il a fait, ah, il y a le gouvernement. Puis ensuite, il a fait, ah oui, mais non, le gouvernement, il tient avec la police. Bon, moi, j'ai un peu peur pour mon fils qui, en effet, a une gueule d'arabe, tu vois, sur le coup. Et qui, du coup, il se rend déjà compte de ça à 7 ans. Mais moi, cette question de surveillance m'a fait réaliser que, et encore, maintenant, j'en suis consciente, donc j'essaye d'augmenter. Je suis sortie depuis le début du confinement 4 fois de chez moi.
Ah ouais.
Pour ne pas aller pour des choses qui n'étaient pas pragmatiques, genre aller déposer mes enfants chez leurs autres parents ou aller faire des courses, je ne suis pas sortie en fait. Je ne suis pas sortie, et encore les 3 fois où je suis sortie, c'était pour aller voir du coup, pour aller faire une promenade dans le parc de forêt avec une copine. C'est les seules fois où j'étais sortie avant ça, quoi. Mais sinon, moi, je sors pas, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un espace ségrégué. Moi, je suis dans un quartier où, comme tu dis, tout le monde se permet de te dire ce que tu dois faire. Et en fait, avec l'école qui est à côté de chez moi, qui a fermé, dans le quartier, il n'y a plus de Noirs. Il n'y en a plus. Il y a juste plus. Je n'ai pas de voisins Noirs. Je n'ai pas de voisins racisés, en fait, même. Donc, du coup, moi, quand je me balade dans la rue, les gens, ils me dévisagent. On a genre, OK, qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que c'est ton quartier ? Est-ce que tu vas... Alors, du coup, on me regarde. Est-ce que tu as un sac de course ? Tu as un sac de course, tu vas faire tes courses, OK. Tu vois, c'est, ah mais oui, mais non, mais alors attends, stop, tu n'as pas de sac de course, tu n'as pas de chien, quelle est ta raison d'exister dans l'espace public, tu vois? Et donc, juste pour éviter ce truc là en fait, moi, je me cache à l'intérieur, je prends le soleil avec ma fenêtre ouverte dans mon salon, et je me suis auto-enfermée, je me suis confinée presque comme en France, mais en Belgique.
Et alors, j'ai appris avant-hier que la commune de Molenbeek, du coup, qui n'avait pas peut-être assez de gens qui pouvaient dire « mets ton masque, garde la distance de sécurité », je sais pas, a engagé, je sais plus exactement le nombre, mais un certain nombre de travailleurs de rue pour rappeler aux jeunes le confinement. Et du coup, dans cette sélection de travailleurs de rue, du coup, essentiellement des personnes racisées pour que, tu vois, les jeunes comprennent mieux, etc. Et je pense, oui, voilà. Et donc, que du coup, cette surveillance s'étend pas aux policiers ou aux bourgeois, etc., mais du coup, a été déléguée aussi à des personnes qui sont tout aussi piégées que celles qui se font contrôler. Et enfin, je trouve ça très mal.
Même. entre personnes, parce que moi j'ai eu des amis qui au début du confinement, ben maintenant ils sont un peu calmés, mais qui voilà, moi j'ai eu même quelqu'un qui m'a dit quoi, tu continues à aller bosser, c'est complètement irresponsable. Et t'es genre là, ben en fait j'ai pas le choix parce que mon travail est en présentiel et qu'on m'a pas demandé mon avis et qu'en plus accessoirement je vais pas démissionner parce que j'ai besoin d'un salaire. Donc voilà. Mais de même d'individus, de réflexes qu'on a, je pense, parce qu'on a peur, en fait. Et donc, on se dit, il faut que je contrôle la situation. Et donc, pour contrôler la situation, tu te dis, bon, en fait, il faut que quelqu'un soit responsable de ça. Et donc, c'est plus facile de dire, c'est mon voisin qui a fait la fête 3 fois pendant le confinement. C'est à cause de lui que l'épidémie n'est pas finie, que de se dire que soit, genre, c'est la faute de personne et en fait, on est vraiment dans la merde. Soit, en fait, nos gouvernements gèrent aussi comme des clètes. Et c'est beaucoup plus flippant de se dire ça, je pense, parce qu'on a peut-être moins de contrôle. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que même entre personnes, entre pères, parfois on se dit genre « Ah ouais, toi t'as fait ça, oh là là, c'est risqué. » Et c'est très fatigant.
Mais c'est complètement néolibéral. Ouais. C'est une approche qui est hyper individualiste, qui est hyper néolibérale. C'est comme les gens qui sont en mode « En fait, si jamais tu veux te battre contre les questions, enfin contre le réchauffement climatique, eh ben tu dois prendre ton vélo tout le temps. Et en fait, là maintenant tout de suite, comme tu viens de manger un McDo, toute évidence, tu t'en fous, donc arrête. » Alors qu'en fait, on est bien d'accord que c'est un problème systémique et c'est hyper néolibéral parce que pendant qu'on est en train de regarder nos propres nombrils, les nombrils de notre voisin en disant « Oh là là, mais dis donc, on a vraiment un gros problème de santé et c'est de ta faute. » Eh ben en fait, pendant ce temps-là, on n'est pas du tout en train de regarder des problèmes structurels, par exemple le fait que tout le budget de la santé a été complètement pillé par nos gouvernements précédents, tous les problèmes structurels en fait qu'on a en Belgique qui font que, ben ouais, alors certes on s'en tire, mais en attendant, comme disait l'autre, nos infirmières, elles peuvent pas aller payer leurs courses avec des applaudissements, quoi. Ça va pas le faire. Et en fait, aller parler de héros, c'est encore une manière d'aller se déresponsabiliser au niveau supérieur.
Ouais, c'est clair.
Oui, et il y a, c'est que en fait, c'est une amie me faisait remarquer que à Guantanamo, bon, ça a vérifié dans le détail ce qu'elle disait, mais je vous le retranscris comme ça. Pour les prisonniers, on les isole en fait, on leur met des gants, je crois, on leur met des masques, c'est-à-dire qu'on leur coupe toute la possibilité d'avoir des sens. Et en fait, c'est ce qu'on a tous à notre échelle, et un enfermement, un isolement, et du coup, le fait d'être coupé de ses sens et même d'avoir intégré physiquement que l'autre est un danger. Donc, je sais pas, vous avez dû sentir ça dans le corps aussi, que quand on retrouve maintenant un ami, une amie, on a un premier mouvement de vouloir lui faire la bise, puis on a « Ah non, je vais te contaminer » ou « Toi, potentiellement, tu peux me contaminer ». Et en fait, ça, c'est insidieux parce que du coup, cette force collective aussi, parce que là, on est tous en train de souffrir quand même très fort, je pense, quel que soit les niveaux d'échelle, évidemment, il y en a plus que d'autres, c'est certain, mais je pense que c'est une épreuve quand même collective, ce qu'on est en train de vivre. Mais en fait, on est, contrairement aux attentats ou des genres de choses où on était solidaires les uns vis-à-vis des autres, on avait, on était tous en train de vivre un même événement, mais on pouvait aussi se soutenir. Du coup, il y avait des effets secondaires comme ça, les gens se souriaient. Mais là, maintenant, on est coupé de cette possibilité-là, en fait.
Communauté.
Et ça, c'est super dur, je trouve, quoi. Vraiment, là, on est en train d'intégrer qu'on est tous des menaces potentielles les uns pour les autres. Et on est vraiment isolé comme ça sur des cellules hyper petites. C'est vachement flippant, je trouve.
Puis il y a des gens qui ont la possibilité de s'isoler. Et puis il y a ceux qui n'ont pas le choix et qui ne peuvent pas s'isoler. Et quand on regarde structurellement nouveau, en fait, les personnes qui ont le moins de possibilités, plus t'es riche, plus tu peux t'isoler, en gros. Et qu'en fait, finalement, les premières personnes impactées restent encore et toujours les personnes minorisées et multiminorisées. Et c'est vrai que ce que tu disais, moi, avec Guantanamo, ça me fait penser à un problème beaucoup plus proche, déjà dans nos prisons à nous, mais aussi, par exemple, les centres faits d'asile. Je pense aux gens qui sont dans les centres faits d'asile, particulièrement aux personnes LGBTQI+, qui sont enfermées pour le moment dans des centres faits d'asile, se retrouvent, parce que je viens juste d'avoir écrit un article là-dessus, mais elles se retrouvent à la fois enfermées avec des gens dans des chambres où tu peux pas t'isoler, tu peux pas. Tu es dans une chambre avec 6 à 8 personnes, tu les choisis pas, c'est des personnes que tu connais pas nécessairement. Si jamais en plus tu es LGBT, que sais-je, bah en fait souvent tu es particulièrement isolé parce que bah tu peux pas nécessairement être out. Donc du coup ce sont des gens qui se retrouvent à la fois forcés d'être avec des gens tout en étant isolés, tout en étant dans l'incapacité de sortir pour aller retrouver de la communauté bienveillante. De pouvoir sortir et d'aller. Il y a plein de gens pour qui c'était le seul moyen de survivre, finalement, c'était de sortir. Et maintenant, en fait, ça, c'était juste plus possible. Et il y a un article qui a été publié, je pense, dans La Libre, de, justement, par une des travailleuses de fait d'asile qui explique aussi comment, en fait, les gens qui sont enfermés, alors qu'ils n'ont rien fait de mal, mais qui sont de facto dans des centres d'accueil pour le moment, se retrouvent avec un régime militaire, à même pas pouvoir sortir, à être... Donc oui, bien sûr, il y a des personnes pour qui le déconfinement, ça va aider, mais sur la question... Enfin, moi, je grogne toujours quand je vois les gens qui pointent du doigt en disant « t'as été travaillé, t'es trop irresponsable ». En fait, c'est pas un choix pour tout le monde,
quoi. C'est un choix pour personne.
Je veux dire, quand t'es super privilégié comme moi et que tu peux... Mais c'est ça, enfin, moi ici, je me sens hyper privilégié parce qu'en effet, je peux décider de faire mon boulot de là où je suis et parce que ça marche. Mais il faut quand même bien être conscient que pour plein de personnes, c'est absolument pas le cas et qu'en fait, c'est sur ces personnes-là que tout repose, quoi.
Oui, malheureusement. Mais bon, ça fait aussi du bien de continuer à travailler. Ça dépend des cas, je pense. Mais c'est clair que si t'es infirmière et que t'as enchaîné les chiffres, c'est un autre cas de figure encore.
Mais quand ça te permet de penser à autre chose, c'est toujours ça de pris.
Oui, c'est ça.
Et du coup, pour revenir au... Alors, tu parlais à la base de vélo. Tu vois, comme on digresse et on part, et je pense que c'est pas plus mal. Moi, personnellement, ça me dérange pas qu'on digresse trop. Mais du coup, on est bloqué... Enfin, jusqu'ici, on a été bloqué à la maison pour plein de gens pendant 8 semaines. Et je pense que Louise avait quelque chose à te dire. Sorry, je te prends par surprise. Bouh
ah ben là,
par rapport à le fait d'être chez soi. Hé, t'as vu ça, mes transitions, quoi.
D'être, au fait d'être chez soi.
Ah oui, d'accord. Je mets un petit peu de temps à processer les trucs, apparemment.
C'est une grosse impro, ce...
Mais non, mais parce que je sais que... voilà, moi, depuis le début du confinement, c'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas dans mes lectures, par exemple, des moments où c'est plus ou moins facile. Mais en tout cas, depuis un bon mois, je suis quand même sur une bonne piste de lecture. Et j'ai commencé par « Chez soi » de Mona Chollet. Et ça a été une lecture vraiment... que j'ai trouvé assez idéal pour le confinement, en fait. Moi, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, mais j'avais un peu de mal à me lancer parce que les essais, c'est toujours des trucs un peu repoussoirs pour moi, même quand c'est écrit de manière vraiment superflue. Mais voilà, je me suis un peu mis un coup de pied au cul pour faire avancer ma lecture et que je me laisse pas à ce premier blocage, quoi. Et vraiment, j'ai pris... beaucoup de plaisir à le lire, je l'ai corné à pas mal d'endroits. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que vraiment, elle, à travers l'idée de ce que c'est qu'être chez soi, elle développe plein de thématiques autour du travail, de l'occupation de son chez soi, du partage des tâches domestiques, et puis aussi des questions d'architecture, en fait. Ça m'a beaucoup donné envie de réinvestir mon chez moi, cette lecture-là. Et d'autant plus, c'est d'autant plus important en confinement où on est bloqué chez nous. Bon, moi, j'apprécie bien de base d'être chez moi, donc c'est pas si dur que pour d'autres. Et puis en plus, je suis dans des bonnes conditions aussi. Mais c'est vrai que ça permet vraiment d'apaiser cette angoisse qui a été liée au confinement. Et ça donne envie, en fait, de se retourner davantage, de retourner davantage vers ce chez-soi et de l'investir correctement et d'avoir du temps pour le faire, surtout. Donc, sur le travail, moi, ça m'a beaucoup fait tourner les méninges. Mais je sais pas si quelqu'un d'autre l'a lu ou quoi.
Non, mais il était disponible en ligne gratuitement, hein, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. En ce moment, il est disponible gratuitement comme Sorcière aussi de Mona Chollet.
Cool. Sur la maison d'édition, c'est quoi encore la maison d'édition ?
Non.
Tu l'avais pas devant toi ?
Moi, la version que j'ai, c'est pas la même édition que Sorcière, par exemple. Moi, c'est à la Découverte.
Ah oui, Sorcière, c'est Zone.
Voilà. Mais Zone, c'est la collection, mais c'est les éditions Cambourakis, je crois.
Ah oui.
Ah, ok. Voilà, là, c'est pas. Là, c'est Poche, la Découverte. Donc,
Moi, ça m'a fait le même effet. Je l'ai lu aussi, genre en semaine 3 du confinement, où vraiment, Tu vois, semaine 1, tu te dis, ça va durer 2 semaines et c'est pas grave. Et puis semaine 3, tu te dis, en fait, je sais pas combien de temps ça va durer, ils sont mon avenir. Et du coup, chez soi, m'a un peu là, juste me poser pour les 2 semaines d'après. Après, mes angoisses sont revenues, mais pendant 2 semaines, c'était plutôt cool.
C'est toujours ça de prix.
Oui, un bon anxiolytique, alors, littéraire. Oui, moi, je l'ai parcouru et j'ai réussi à convaincre ma mère de le lire, ce qui est une grande conquête pour moi. Donc, il est apparu chez ma mère et je le parcourais à chaque fois que j'allais là-bas. Et là, je suis tellement heureuse que ma mère se soit enfin mise à la lecture de Mona Chollet. Et elle m'a trop fait rire, d'ailleurs, elle est trop drôle. Parce que je fais vraiment de la militance féministe auprès de ma mère, et c'est un fameux combat qui pourtant aurait tout le background pour, hein, je veux dire 68 tard de gauche, etc. Mais sur les questions de genre, fort un peu, il y a encore des trucs un peu old. Coucou maman, si tu m'écoutes, hey. Je t'aime, je t'avais écouté. Donc Mona Chollet, pour moi, c'était un truc un peu, tu vois, genre en douceur et tout. Puis comme là, c'est le confinement, je lui ai dit, mais c'est la période idéale pour lire chez soi, quoi. Et alors, elle m'a trop fait marrer parce que vraiment, c'est des années de militance pour la convaincre de lire un bouquin comme ça qu'elle a finalement donc lu grâce au confinement. Et là, du coup, elle s'est mise à en parler à son entourage. Et du coup, elle s'est rendue compte que Mona Chollet était super célèbre puisqu'une de ses amies, elle lui a dit « Mais évidemment, Mona Chollet, mon fils organise une exposition avec elle bientôt, il l'adore et tout. » Et là, du coup, ma mère était genre en mode trop fière, genre « Oh, mais ma fille !» Je disais « Mais maman, ça fait combien d'années elle est ?» Et maintenant, parce que c'est par spin parisienne, tu vois, ça prend la valeur, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc c'était mal.
Si ça permet d'être enfin entendu, c'est très bien.
N'est-ce pas ?
Parce que c'est vrai qu'il faut la lire, Mona Chollet. Quoi ?
Quoi ?
Ouais, mais j'ai toujours pas réussi à la lire. J'ai les sorcières et j'ai envie à un moment de le parcourir, mais d'un autre côté, en fait, comme pour un moment, je suis toujours sur mon. Je vais commencer à relire des personnes blanches quand j'aurai fini de lire les personnes noires. Je suis pas sûre que ça va arriver un jour parce qu'en fait en vrai
ça va probablement jamais arriver
mais du coup oui j'en ai pas mal entendu parler. Je pense que en effet c'est cool, mais ce qui me fait rire dans ce que tu dis Charlotte, c'est le truc avec ta mère, parce qu'en fait je sais pas pour vous, mais alors moi j'ai déjà entendu, je crois que c'est la maman de ma copine qui dit ça, que avoir des enfants activistes c'est difficile.
Ah ouais.
C'est compliqué. Et je peux comprendre, j'imagine. Enfin, moi, en tant qu'activiste, si jamais dans 15 ans, c'est mon fils, ma fille qui débarque et qui commence à me balancer des trucs, et je suis là genre, tu vas pas inventer le fil à couper le beurre. Enfin, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Mais du coup, moi, j'avoue, j'ai eu un truc comme ça avec ma mère qui un jour m'a défendue vis-à-vis de mon beau-père, qui lui a clairement fait mes 68 à pieds nus. Hein. C'est un hippie qui a fait mes 68 à pieds nus. Et qui était en train justement de remettre en cause ce que je disais, ou ma méthode, ou un truc du genre, tu sais, il faut laisser la terre faire, que sais-je. Et ma mère a juste débarqué en disant, non, moi en fait, je suis très impressionnée. Et je suis très fière de ce que tu fais, Aïda. Et je vois comme tu arrives à articuler plein de choses ensemble. Et moi, vraiment, tu m'as ouvert les yeux sur plein de trucs. Et je suis genre, ah, oh, ça y est, tu sais, tu vois les nuages qui s'écartent, le rayon de soleil, ouais, tout ça, clair. Les petits anges.
Ah, la révélation, quoi. Ça, c'est beau. Parce que moi, mes parents, j'ai juste l'impression qu'ils me voient me radicaliser et qu'ils sont un peu perplexes sur le côté, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait ?
Je pense que oui, ma mère me regarde toujours avec un air dubitatif quand je lui viens avec une nouvelle idée de révolte comme ça.
Ah ouais ? Ouais, non, c'est sûr. Et je vous ai pas
dit. Au début, elle me regardait avec un air.
Je vous avais pas dit la
fois. Je crois que ça a été compliqué. Hein.
Où ma mère m'a dit, ah, oh, j'ai lu King Kong Theory, tu devrais tellement le lire.
Ah oui, ça c'était un grand classique. Moment.
C'était il y a pas longtemps. Ouais,
hein. Mrs. Obvious, bonjour.
Mais c'est sûr que c'est pas évident. Et moi, je sens aussi que je suis très très chiante à ce niveau-là avec elle sur ces trucs-là. Tu sens qu'il y a une envie de, tu vois, que l'autre de convaincre en permanence. Et bon, en même temps, on peut pas. On a justement cette génération d'écart qui fait qu'on peut pas non plus leur demander de voir le monde avec nos yeux. Ils ont d'autres valeurs. C'était pas le même monde, c'était pas les mêmes éducations. Mais bon, on peut quand même.
Non, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Hein. Je serais jamais d'accord sur le. C'était pas le même monde. Parce qu'en soi, en fait, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, on l'a pas inventé. En plus, en Europe francophone, on a 15 à 20 ans de décalage au niveau des sujets qu'on traite sur les questions de genre, sur les questions de, sur les questions d'écologie, etc., sur certaines autres parties du monde, notamment dans les sphères anglophones. Et donc, du coup, moi, j'avoue, en fait, ma mère, elle a tendance à comprendre pas mal parce que c'est une rebelle. Sur le coup, au tout début, quand j'ai commencé à me radicaliser, ça a été compliqué. Mais parce que aussi ça la remettait face à son comportement, parce que full disclosure, ma mère elle est blanche, alors avoir ta fille qui débarque en disant les blancs ça suffit, franchement vous avez fait que de la merde jusqu'ici, y compris elle, c'est un peu le ok, en attendant je t'ai quand même mis au monde. et en fait ça, enfin maintenant elle a compris, maintenant elle comprend le, elle comprend aussi, elle fait la paix avec le fait que j'ai pas la même vie qu'elle. Mais c'est vrai que c'est pas évident à reconnaître. Et je pense que même entre gens de la même race, en soi, oui, nos parents n'ont pas la même vie. Les générations avant n'ont pas vécu la même chose. Et en fait, en l'occurrence, vous avez peut-être plus d'exigences que vos parents. Ça, c'est clair. Mais je pense que le fait d'aller travailler au corps, qu'il y a un moment où ça finisse par, où que le front finisse par tomber, enfin, je veux dire, des vieux radicaux, on en connaît, quoi. Je connais des vieux militants qui ont 70 ans. Enfin, tu vois, je veux dire, si jamais eux y arrivent, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Il y a aussi un moment où, moi, je veux arrêter de donner des excuses, aux vieux sous prétexte qu'ils sont vieux et que tu comprends, c'est pas de leur temps. Non, c'est parce qu'en fait, ils ont pas envie, parce qu'en fait, ils arrivent à apprendre encore plein d'autres choses. Hein, ils s'y font au nouveau discours d'extrême droite.
Sans aller jusque là, je dis juste que le contexte, enfin, moi je suis contente d'être féministe aujourd'hui, hein. Je veux dire, je vois aussi qu'on est dans, même si là on prend cher en ce moment, et d'ailleurs c'est assez inquiétant, hein, tout ce qui se passe au niveau militant, mais on est quand même à un moment où il y a des questions et un mouvement collectif, et tu vois, et évidemment toutes ces questions elles étaient là aussi à la génération de nos parents évidemment, mais regarde ne serait-ce que le comportement des hommes de l'entourage de ma mère, franchement, moi, il y a de quoi flipper, je trouve. Hein. C'est pas le même comportement, mais bon.
Mais moi, je me dis que c'est quand même... Enfin, je sais pas, si j'avais 70 ans et qu'on me bousculait plus parce qu'on se dirait « Ah, ben, elle est trop vieille, de toute façon, ça sert à rien », je trouve ça un peu vexant. Tandis que, enfin, je sais pas, je trouve ça... En fait, je trouve que c'est un gage de respect de continuer à bousculer nos vieux. Voilà.
Ouais, c'est intéressant pour eux d'être challengés. C'est clair.
Après, ça dépend. Ma grand-mère de plus de 90 ans, c'est foutu quand même. Ouais. Enfin, je lui laisse pas dire des trucs trop racistes. Je lui dis non, tu ne peux pas dire ça. Mais lui expliquer pourquoi elle ne peut pas dire ça, c'est...
Oui, oui.
Ça ne sert plus à rien, en fait. Et elle est déjà très occupée à avoir très, très peur du fait qu'elle va bientôt mourir. Et donc, voilà.
Ouais. Bon.
Mais en même temps, je pense, par exemple, au point de vue du genre, sur nos questions, et moi, je vois même par rapport, moi, la question raciale, par rapport à mon père, par exemple, qui a quand même 83 ans, ça nous rapproche. Moi, j'ai plus de conversations intéressantes avec mon père depuis qu'on parle race ensemble, qui est des choses dont lui, il m'avait jamais parlé. Et je me rends compte que, par exemple, il y a tout un truc avec le genre, où on a tendance à imaginer que les combats féministes, tout ça, nous, maintenant, on se tracasse de plein de choses, mais en fait, j'ai nos mères, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, elles l'ont vécu aussi. Enfin, cette question du patriarcat, tu peux faire la paix avec, mais en attendant, enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs. Et ça peut faire du bien, en fait, aussi, de libérer une parole de gens qui l'ont vraiment enfoui pendant vachement plus longtemps que nous. Parce qu'en vrai, c'est vrai que le grand privilège qu'on a dans notre génération, c'est que nos traumas, etc., c'est une parole qu'on a enfoui pendant un temps beaucoup plus court que nos grand-mères de 90 ans qui se taisent depuis plus de 70 ans sur ce qui leur est arrivé, tout simplement parce que ça se fait pas d'en parler.
Ouais. À fond.
Après, non, ça peut être hyper violent de rouvrir le trauma, hein, je dis pas, hein, c'est pas ça... le sujet n'est pas d'aller.
Je pense que parfois, justement, des personnes âgées qui refusent de se remettre en question, c'est aussi, moi quand je parle avec mes grand-mères ou même ma mère parfois de féminisme, etc., c'est aussi se dire j'ai vécu le monde en me disant qu'il pouvait pas changer et que je devais accepter une certaine violence, mais que je trouvais quand même mon compte, voilà, diverses stratégies pour se dire voilà, je survis dans ce truc-là, qui de toute façon ne peut pas changer et que quelque part je mérite un peu parce que je suis une femme. Ou parce que je suis pauvre, enfin voilà. Et puis devenir en disant, ben en fait, ça aurait pu être autrement, ça a été autrement pour d'autres gens, et maintenant c'est en train de changer. Je pense que parfois il y a aussi une violence de se dire, en fait, si j'accepte ça, si j'accepte que ce que j'ai vécu n'était pas injuste, alors que maintenant c'est genre vraiment trop tard, ben en fait, je dois faire face à des traumas que j'ai même pas accepté en tant que trauma, parce que je me suis juste dit, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Et parce qu'à l'époque, avec les outils qu'elles avaient, etc., elles n'auraient rien pu faire d'autre. Et donc, parfois, je vois un peu un truc de « ouais, je t'écoute et je t'entends, Mais en même temps, je vais pas aller trop là-dedans parce qu'en fait, c'est trop douloureux et que j'ai pas, j'ai plus le temps de guérir ça, en fait.
D'accord. Ouais.
Et ça, je trouve ça très dur. Et les personnes un peu plus jeunes aussi qui parfois ont ça, moi, je trouve ça dommage parce que j'ai envie de leur dire si t'as le temps, t'as grave le temps. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est des crispations de se dire, mais en fait, toute mon histoire personnelle va voler en éclats, quoi. Et tout ce que j'ai réussi à construire malgré des circonstances parfois, en fait, injustes. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? C'est un peu la question de, du coup, est-ce que je me tape une dépression de 2 ans pour essayer de tout reconstruire, ou est-ce que je fais semblant qu'en fait tout était très bien? Mais enfin, c'est des questions.
Il faut refaire sens, je suppose que ça vous est arrivé aussi, mais à partir du moment où tout d'un coup t'as la révélation, nouveau les nuages, le petit rayon de soleil, tout ça, que t'as la révélation, c'est hyper douloureux en fait. Déconstruire, par exemple, de prendre le prisme du genre et de déconstruire son environnement, c'est hyper violent parce que sur le coup, certes, ça fait sens et c'est cool. Et en plus, tu te rends compte que d'autres personnes ont vécu la même chose, donc t'es pas seule et c'est pas un problème personnel, donc ça c'est cool. Mais en même temps, on a aussi le souci dans ce moment-là de se dire, ok, mais en fait, enfin, c'est hyper violent, c'est hyper douloureux. T'es en train de refaire toute ta vie, t'es en train de tout de faire sens de toute ta vie. Mais bon, nous, encore une fois, a priori, avec un peu de chance, on a encore un peu de temps devant nous pour pouvoir construire quelque chose qui nous convient. C'est vrai que c'est pas spécialement évident, quoi.
Non.
Ok. Est-ce que vous voulez qu'on fasse notre tour des lectures, alors des livres, des objets culturels de notre petite vie du moment?
Yes.
D'accord. Clôturer doucement.
Ouais.
Volontiers.
Alors, qui commence? Qui a un truc cool à partager?
Moi, j'ai
ou un truc pas cool à partager, hein?
Moi, j'ai un truc cool. Je vous le montre, mais en fait, ça sert à rien parce qu'on s'enregistre et pas en vidéo. C'est le livre Habiter le trouble avec Donna Haraway que j'avais acheté avant le confinement et que j'ai lu, pour l'instant, j'ai lu la moitié. C'est un recueil d'essais autour de Donna Haraway. Donc, il y a vraiment plein de choses. Ça va du traité de taxidermie à la description d'une pièce d'isolement en hôpital psychiatrique. Il y a vraiment plein d'essais, mais à chaque fois, ça part de la pensée de Donna Haraway et justement de son essai « Habiter le trouble ». Et j'ai trouvé que c'était super chouette en confinement parce que, bon, c'est des textes théoriques, voilà, c'est pas forcément léger à lire, mais ça donne beaucoup d'espoir parce que ça voit des problèmes très compliqués et ça reconnaît nos moments d'angoisse et de douleur terribles. Et en même temps, ça cherche à trouver des stratégies collectives pour se dire, OK, le trouble dans lequel on est là, qui est douloureux, compliqué, disloquant, qu'est-ce qu'on en fait là ensemble? Et est-ce qu'on ne peut pas aussi le voir comme une force et une chance? Et c'est vrai que là, pendant le confinement, moi, ça m'a pas mal aidé parce qu'on est dans le trouble encore plus que je dirais dans cette ère de fin de capitalisme. Non, c'est pas, peut-être pas la fin du capitalisme, mais en tout cas, on est à la fin d'une ère, ça je pense que c'est clair. On est dans une société en crise à tous les niveaux. Et donc, c'est clair que le confinement est particulièrement révélateur de ça, moi j'ai trouvé. Donc voilà, je le conseille. C'est des articles assez courts aussi, donc ça peut aussi se lire en 2 ans. Je lis un article un mois et puis un autre 2 mois plus tard. C'est très cool. Voilà.
Super.
C'est chouette. Bon, moi, je vous ai déjà parlé de Mona Chollet, donc je vais peut-être m'abstenir sur ce petit tour des œuvres pour laisser la place aux autres.
Bah, vas-y, t'as rien d'autre que tu as vu, écouté, lu récemment?
J'ai lu plein de choses et tout à l'heure, je pensais parler d'Elisabeth Acevedo parce que j'ai lu son livre Signé Poétiques. Voilà, je le conseille, c'est écrit sous forme de poème, c'est magnifique, mais voilà, du coup je le dis rapidement et à la limite j'en parlerai plus une prochaine fois.
Mais attends, moi je suis curieuse, c'est un roman en poème, c'est ça?
Donc, ouais, c'est le journal intime d'une adolescente et en fait elle n'écrit que des poèmes et donc en fait elle te raconte sa vie à travers ses poèmes et c'est très beau parce que c'est vraiment tous les questionnements qui traversent la vie d'une adolescente. Et ça aborde des questions de sexualité, d'amour, de confiance en soi, confiance, l'amour de son corps, etc. Enfin, c'est vraiment très touchant, c'est très beau et ça se lit super vite, c'est fluide, c'est vraiment magnifique, je vous le conseille.
Trop bien.
Il est merveilleux. Moi, il m'a fait pleurer. Enfin, je l'ai trouvé hyper poignant, pas parce que c'est triste, mais vraiment parce que c'est poignant, quoi. C'est l'histoire d'une ado qui vit à New York et qui est dominicaine. C'est un truc qui revient beaucoup chez Acevedo, c'est elle est afro-latina. Elisabeth Acevedo, et donc elle fait beaucoup des personnages comme ça qui ont souvent aussi en plus des histoires multiples et qui est une fille. Enfin, c'est hyper beau ce livre. C'est vraiment hyper beau parce qu'elle est en tension avec sa famille, parce qu'il y a des trucs qui se passent dans sa vie, parce qu'elle a envie de tomber amoureuse et elle tombe amoureuse, mais en même temps, elle vient d'une famille hyper catho. Enfin, et donc c'est magique. Et ouais, c'est vraiment. Moi, en plus, je l'ai lu en anglais et en fait, en gros, c'est du slam constamment. Et j'ai même écouté une partie en audiobook et l'audiobook en anglais, il est lu par l'autrice. Donc, tu as vraiment le rythme. C'est un vrai plaisir.
Ça donne envie.
Faites, lisez. Et Charlotte, tu allais dire quelque chose?
Oui, moi, je vais juste citer donc, la référence que je voulais partager avec vous. Et puis, je pense que la prochaine fois, je vous parlerai de son livre plus dans le détail. Donc, il s'agit de Judith Duportail, qui est une journaliste française qui a fait un podcast qui s'appelle « Qui est Miss Paddle ?» Et c'est trouvable sur la plateforme Pavillon Sonore. Et donc, je vous recommande absolument l'écoute de ce podcast. C'est absolument génial. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Je l'ai écouté à chaque fois, tous les épisodes d'une traite. C'est 6 petits épisodes. Et voilà, je les ai même réécoutés d'une traite. Et j'ai été vraiment hyper émue par le sujet et par la façon dont elle en parle. Et honnêtement, je trouve que c'est une personne qui écrit vraiment, mais incroyablement bien. C'est super fin. C'est personnel, c'est documenté, c'est vraiment, elle parle en jeu et elle raconte l'histoire d'une une relation d'amour toxique en fait et l'emprise en fait qu'elle a subie dans cette relation et aussi le rapport, l'influence des réseaux sociaux sur notre estime de nous-mêmes, sur notre regard, sur les uns les autres et particulièrement les unes les autres, les regards qu'on peut porter sur les autres femmes. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Moi, ça m'a bouleversée. Et du coup, je suis en train de lire son livre que Louise m'a prêté. Enfin, le colloque de Louise m'a prêté. Merci encore. Et franchement, tu vas adorer, Louise. Ça se lit trop bien. Et donc, voilà, je te passerai après. Quand j'aurai fini, là, je l'ai vraiment dévoré. Et si vous voulez, je vous en parle la semaine prochaine parce que ça creuse un peu les sujets là, que j'ai évoqués rapidement sur l'amour, les réseaux sociaux, l'estime de soi, le rapport aux autres, la comparaison et tout. Et c'est vraiment, encore une fois, une écriture formidable. Donc voilà, peut-être plus de détails la semaine prochaine.
Et ouais.
Et Sophie, est-ce que tu as...
J'ai vraiment des problèmes de lecture en ce moment. J'arrive pas du tout à lire. En tout cas, déjà de base, je déteste les romans. Je lis plutôt des essais. Et là, en ce moment, à part Mona Chollet, j'ai pas lu grand-chose pendant ce confinement. Et du coup, je me suis dit que les BD, ça allait fonctionner. Donc, j'ai d'abord commencé par une BD sur Kiki de Montparnasse. Et juste pour dire, OK, je vais faire un truc un peu léger. En fait, ça m'a super déprimée. Elle a eu une vie horrible. Wow. Et puis, du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire la révolution, mais que je savais pas très bien. Et du coup, que j'allais un peu m'inspirer de mes ancêtres. Et en fait, du coup, je lis une BD que j'ai emprunté au travail d'ailleurs et qui s'appelle Louise Michel la Vierge Rouge. Et du coup ça explique
woup woup.
Quoi?
Woup woup.
Woup woup. Voilà. Big up Louise. Mais du coup ouais, c'est la BD est pas super bien foutue, mais en tout cas ça fait plaisir de lire une BD qui cause d'une meuf qui a défoncer tout, et ça c'est super. Et moi je suis chaude qu'on prépare la révolution, du coup si jamais vous avez envie qu'on parle de ça la prochaine fois et qu'on essaye de, parce que je sais pas trop par où commencer, et mais je sens qu'il y a des trucs à faire, du coup voilà.
Moi j'habite à côté d'un commissariat, peut-être qu'il y a des choses à faire à ce niveau là peut-être que je dois pas le dire à la radio, ça je sais pas trop.
Qu'est-ce que tu dis? Ah bref. On a un peu envie de dire on va couper ça au montage, mais on va pas demander à Clément d'aller couper ça au montage. Donc,
mais ça va,
ce sera pour la postérité.
Pas,
hein.
Ouais, les flics écoutent pas Radio Panique.
J'ai eu une expérience récente dont je vous parlerai après, qui en fait si, voilà, peut-être pas faire genre. Pas.
Oh.
Mais voilà, on en reparle.
On en parle en off.
Eh ben, il nous reste 3 petites minutes. Du coup, moi, je donne peut-être vite ma recommandation aussi. Moi, comme Sophie, je lis beaucoup. Hein, et là, je crois que je viens quand même de lire, genre, j'ai peut-être lu 10 livres sur le confinement. Mais déjà, en fait, j'en écoute beaucoup en audiobook. Et j'ai aussi, en fait, j'ai arrêté les essais. parce qu'en fait, moi, j'aime bien les romans de temps en temps. J'ai tendance à manger beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais. J'ai zappé énormément d'essais pour le moment parce que c'est juste pas possible. Et du coup, je me suis plongée dans la littérature pour ados, donc Elisabeth Acevedo, par exemple. Parce qu'en fait, la littérature pour ados, c'est la vie, sauf qu'en vrai, je deviens hyper difficile. Donc, de toute façon, je suis toujours, comme je disais, je lis plus que des femmes noires et des, ou racisées et des personnes queer noires ou racisées, c'est tout. Je ne m'occupe plus des blancs et des hommes cis, plus jamais. Et donc, du coup, là, je viens juste de finir Felix Ever After, qui est de... Ah, il faut que je retrouve son nom. Mais qui a été écrit par un mec trans et qui est l'histoire d'un jeune ado trans qui s'appelle Felix Love et qui n'a jamais été amoureux et qui aimerait bien être amoureux. Et c'est écrit par Cassen Callender. Voilà, c'était très très chouette, bien qu'énervant par moments parce que les ados, c'est chiant. Et mis à part ça, moi j'ai juste une petite anecdote. Je viens de commencer un livre que j'ai dû arrêter pour cause de trop plein de féminisme de ma part. Qui est un livre pourtant qui a des super reviews, notamment de Roxane Gay, donc vraiment quelqu'un qui est, voilà, qui s'appelle The Wedding Date. C'est vraiment de la chick lit, c'était parfait, ça commençait bien, la meuf elle rencontre un mec dans un ascenseur, tu vois, genre le mec il est super sexy, il finit par l'inviter à un mariage pour être son date parce que voilà. Sauf qu'en vrai, en fait, c'est une meuf noire qui se retrouve à sauver un mec blanc paumé qui a besoin d'avoir un date pour aller à un mariage. Et y a plein de petits passages agaçants qui ont fait qu'en fait j'en pouvais plus parce que ça passe pas le Bechdel test et que y a un moment où elle se retrouve avec un gars qui vient la draguer et qui met sa main sur son coude et puis l'autre mec vient et la prend par la taille et là oh merci de m'avoir sauvé de ce gars et je suis là genre en fait moi il y a un mec qui me touche le coude alors que j'ai pas envie je fais dégage voilà ça c'était ma conclusion bref ouais. Le féminisme ça vous empêche de lire des trucs c'est pas toujours cool et voilà c'est tout pour mes recommandations pour moi du moins. Mais je viens de me créer un énième compte Instagram et donc si vous cherchez Aida Yancy, vous aurez d'autres recommandations régulières de personnes racisées. Est-ce qu'on cool. fait... C'était le petit plug. Est-ce que...
Promo de Aida, autopromo. Je suis ça bon, le concept en fait. Voilà. Celle qui anime, elle fait son autopromo au passage. Donc il faut... Préparez-vous les filles la prochaine fois.
Mais ouais, mais c'est hyper important en vrai, parce qu'en fait, où est-ce qu'on le fait? Et puis surtout, moi, la raison pour laquelle je fais ces recommandations, c'est parce que à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, je me dis, tiens, oui, tu pourrais me recommander un livre écrit par une personne racisée, blablabla, parce qu'on n'en a pas dans nos listes de livres habituelles. Ouais, et donc, ouais. Du coup, en fait, j'ai fini par créer un compte Instagram.
Non, c'est trop bien, c'est parce que moi, j'en cherche tout le temps, en vrai. Et c'est trop bien.
Très bien. On ira voir.
Voilà, viens me suivre sur Instagram. Ok, bon ben voilà, je pense qu'on vient d'attendre notre petite heure. Ouais. Donc du coup, je pense que c'est le moment de nous dire au revoir.
Ouais, merci d'avoir l'idée cette première session do it yourself, faire genre confinement. Yes.
Merci. Et a priori, la prochaine fois, on prépare la révolution du coup.
Oui,
voilà. C'est une très bonne idée.
Mais est-ce qu'on peut faire ça à la radio? Non.
Bon ben la prochaine fois. Bon, on peut donner des pistes pour préparer la révolution
oui,
la prochaine fois.
Mais pas, oui, c'est ça. Pas de conseils pratiques. Mm-hmm. Ok.
On peut pas nécessairement faire juste la révolution. Par contre, la radio, historiquement parlant, grand outil de révolution. Mais donc, du coup, à la prochaine fois pour préparer la révolution.
Voilà.
Ah ouais.
Après,
j'espère.
Allez. Eh ben, salut. À bientôt.
Bye.